Il y avait une station-service dans Kansas Street, à quelques rues de là. Je suis entré dans le bureau pour demander le chemin de Cossett Street. Du garage me parvenait le ronron du compresseur et des accents acidulés de musique pop, mais le bureau était vide. C'était pas grave, car j'avais aperçu un présentoir de cartes près de la caisse. Le compartiment du haut contenait un seul et unique plan de la ville, à l'air sale et oublié, avec en couverture la photo d'un moulage en plastique particulièrement hideux de Paul Bunyan. Sa hache sur l'épaule, Paul souriait, la tête levée vers le soleil d'été. « Y a que Derry, » je me suis dit, « pour choisir la statue en plastique d'un bûcheron de légende pour icône. » Il y avait un distributeur de journaux juste derrière les pompes. J'ai pris un exemplaire du Daily News en guise d'accessoire et expédié une pièce de 5 cents rejoindre les autres éparpillées sur la pile de journaux. J'ignore si les gens étaient plus honnêtes en 1958, mais ils étaient vachement plus confiants. D'après le plan, Cossett Street se trouvait du côté de Kansas Street, et depuis la station, il m'a suffi de 15 minutes de marche agréable pour m'y rendre. J'ai marché sous des ormes qui n'avaient pas encore connu la maladie qui les décimerait pratiquement tous dans les années 70. Ces arbres étaient encore aussi verts qu'au mois de juillet. Des enfants me doublaient en vélo, d'autres jouaient aux billes dans les allées. De petits groupes d'adultes attendaient aux arrêts de bus placés à l'angle des rues et signalés par des bandes peintes en blanc sur des poteaux téléphoniques. Derry vaquait à ses affaires et je vaquais aux miennes. Juste un type en banal veston sport, son chapeau posé légèrement en arrière sur la tête, un passant se promenant avec son journal plié à la main. Peut-être en quête d'un vide-garage dans un jardin. Peut-être en quête d'affaires juteuses dans l'immobilier. Assurément, il avait l'air d'être chez lui. C'est du moins ce que j'espérais. Cossut était une rue bordée de haies et de maisons boîtes à sel, traditionnelle de la Nouvelle-Angleterre. Des jets d'eau tournicotaient sur les pelouses. Deux garçons me dépassèrent en courant, échangeant des passes avec un ballon de football. Une femme, aux cheveux retenus par un foulard, et à l'inévitable cigarette collée à la lèvre inférieure, lavait la voiture familiale en arrosant de temps en temps le chien de la famille qui détalait en jappant. Cossett Street ressemblait à une scène d'extérieur dans une vieille sitcom un peu floue. Deux fillettes faisaient tournoyer une corde à sauter qu'une troisième franchissait avec agilité d'un petit saut à cloche-pied, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur, tout en scandant « Charlie Chaplin va en France, voir les dames comment elles dansent, un salut pour le capitaine, une révérence pour la reine. » La corde à sauter claquait en rythme sur le trottoir. J'ai senti des yeux sur moi. La femme avec le foulard sur la tête s'était interrompue, le tuyau dans une main, une grosse éponge savonneuse dans l'autre. Elle me regardait approcher des petites sauteuses à la corde. J'ai fait un grand détour pour les éviter et je l'ai vue retourner à sa tâche. « T'as pris un sacré risque en parlant à ces gosses dans Kansas Street, » je me suis dit. Sauf qu'une autre voix intérieure a aussitôt démenti. M'approcher un peu trop près des petites sauteuses à la corde, ça oui, ça aurait été risqué. Mais Richie et Bev étaient ceux que je cherchais. Je l'avais su quasiment dès que je les avais vus, et eux aussi l'avaient su. Nous étions sur la même longueur d'onde. « Est-ce que nous vous connaissons ?» avait demandé Beverly. « Bevy, Bevy, la fille qui aimait la vie. » Cossett Street se terminait en impasse, sur une grande bâtisse portant le titre de centre aéré du quartier ouest. Le centre aéré était désert, et un panneau, mis en vente par la ville, était posé sur la rustique pelouse d'herbe à bison. Voilà qui, pour tout chasseur de primes dans l'immobilier qui se respectait, ne manquait pas d'intérêt. Deux maisons avant le centre, sur la droite, une petite fille aux cheveux roux et au visage parsemé de taches de rousseur, descendait et remontait l'allée goudronnée de sa maison sur un petit vélo à roulettes. Elle chantait toujours la même chanson, dont elle modifiait chaque fois le début tout en pédalant. « Bing bang, j'ai vu tout le gang, Ding, dong, j'ai vu tout le gang. Ring, wrong, j'ai vu tout le gang. Je me suis dirigé vers le centre aéré, comme s'il n'y avait rien au monde que je souhaitais voir davantage. Mais du coin de l'œil, je continuais de surveiller Mini Poil de Carotte. Elle se penchait d'un côté et de l'autre sur la selle de son vélo pour voir jusqu'où elle pouvait aller sans basculer. À voir ses genoux couronnés, ça ne devait pas être la première fois qu'elle s'amusait à ce jeu-là. Il n'y avait aucun nom sur la boîte aux lettres de sa maison. Juste le numéro 379. J'ai marché jusqu'à la pancarte à vendre et noté des renseignements sur mon journal. Puis j'ai fait demi-tour et je suis reparti par le chemin d'où j'étais venu. Comme je dépassais le 379 Cossett Street, marchant de l'autre côté de la rue, feignant d'être absorbé dans mon journal, une femme est sortie sur le perron. Un jeune garçon l'accompagnait. Il mordait dans quelque chose qu'il tenait enveloppé dans une serviette et, de sa main libre, tenait la carabine Daisy, avec laquelle, dans peu de temps, il essaierait de repousser son père déchaîné. « Ellen !» appela la femme. « Descends de ce vélo avant de tomber !»« Rentre ! Viens manger un cookie !» Ellen Dunning mit pied à terre, laissa tomber son vélo dans l'allée et courut vers la maison en chantant à tue-tête « Sing, song, j'ai vu tout le gang !» Ses boucles de cheveux, d'un roux beaucoup moins flatteur que celui de Beverly Marsh, ont rebondi comme des ressorts de sommier en colère. Le garçon, celui qui grandirait pour me rendre ce devoir laborieusement rédigé qui me tirerait des larmes, l'a suivi. Ce garçon qui serait le seul survivant de sa famille. Sauf si je changeais le cours des choses. Et maintenant que je les avais vus, des gens réels vivant leur vie réelle, il semblait n'y avoir aucun autre choix possible.